Merci, messieurs, dames, de préférer les programmes de Studio Kalangou. Il est 18h, l'heure du journal en français. Bienvenue à tous. Ndialo Mariama Kenda, très ravie de vous retrouver. Voici nos titres. La justice a ordonné cet après-midi la réouverture du groupe Radio et Télévision Labari. Le juge a déclaré illégale la décision de la fermeture de Labari. Vous entendrez Maître Boudal Efred, l'avocat du groupe Labari, tout de suite dans ce journal. 664 personnes au total, dont 572 Nigériens et 92 étrangers. C'est la 10e vague des réfugiés d'Algérie arrivés dimanche dernier à Agadez à bord de 26 camions. On en parle également dans cette édition. Cap ce soir sur Tawa, dans la partie magazine de ce journal, précisément dans la commune rurale de Tamaské, pour parler des difficultés que rencontrent les producteurs d'oignons dans cette zone. Bienvenue, le développement de tous ces titres et bien d'autres. Le délibéré est tombé cet après-midi à propos de la fermeture dimanche du groupe de radio et télévision Labari basé à Niamey. La justice a déclaré la décision de la fermeture de Labari illégale. Selon Maître Boudal Efred, l'avocat du groupe Labari, l'État doit respecter et exécuter la décision prise par la justice.
La radio et télévision Labari, la fermeture que nous avons considérée qu'elle était constitutive d'une voie de fait et d'un trouble manifestement illégal. Et heureusement, le juge de référé nous a suivis et il a dit le droit en disant qu'effectivement c'est une voie de fait, c'est un trouble manifestement illégal et qu'il convient de le faire cesser. Maintenant, la balle est dans le camp de l'État. L'État doit exécuter dans un état de droit. Lorsque la justice rend une décision, l'État doit la respecter. Je pense que dans quelques heures qui suivent, normalement, si l'État respecte la légalité républicaine, les forces de l'ordre qui se trouve devant les locaux de la radio-télévision Labari doivent quitter parce que la décision est exécutoire sur minute et avant enregistrement.
Propos recueillis par Abibou Garba, la fermeture du groupe de presse Labari et l'arrestation des activistes a fait réagir le Forum des éditeurs africains. Hier, dans une déclaration publiée à travers le continent, le TAEF a condamné ces atteintes graves à la liberté d'expression, a exigé la liberté des confrères, la libération des confrères et activistes détenus et la réouverture immédiate de la radio et télévision Labari. Makan Kodi, le secrétaire général du Forum des éditeurs africains, joint par téléphone par Elato Soumana.
Les difficultés que nos confrères ont depuis un certain temps de faire convenablement leur travail, donc c'est d'alerter l'opinion internationale par rapport à cela, et dire que nous, en tant que Forum des éditeurs africains, nous sommes derrière nos confrères, nous sommes derrière la défense des libertés à Niamey et à travers l'Afrique. Je vous rappelle que le Niger est quand même l'un des pays qui a signé la déclaration de la table de la montagne depuis 2011. Et le Forum des éditeurs africains est l'une des structures qui a participé à l'élaboration de cette table ronde. Elle interdit carrément toute entrave à la liberté de la presse, à la liberté d'information, à l'accès à l'information. Or, tous ces ingrédients aujourd'hui sont présents au Niger. La télévision est fermée, la radio est fermée, les défenseurs de liberté simplement sont interpellés. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les confrères sont en difficulté, la première des choses, c'est cette solidarité qui est extrêmement importante de la corporation. Il ne faudrait pas qu'il y ait de discordance. Parce qu'en fait, c'est dans cette faille-là que s'engouffrent ceux qui sont contre les libertés.
Makan Kone, le secrétaire général du Forum des éditeurs africains. Hier, toujours dans un communiqué de presse, le réseau des radios et télévisions privées du Niger a aussi demandé aux autorités nigériennes la réouverture du groupe de presse Labari. Et le Conseil supérieur de la communication, l'instance de régulation des médias au Niger, aurait adressé ce matin une correspondance au ministre de l'Intérieur pour qu'il prenne des dispositions afin de rouvrir Labari. L'information confirmée par le directeur par intérim du groupe de presse Abdul Razak et Idrissa. Les 23 personnes arrêtées dimanche à Niamey suite à la manifestation interdite sont placées sous mandat de dépôt depuis hier par le juge d'instruction du tribunal de Niamey. Parmi ces personnes figurent 4 activistes très connus de la société civile nigérienne ainsi qu'un militant de l'opposition politique. Ainsi, Ousseini Meïga, l'homme politique, et Moussa Tchangari ont été conduits aujourd'hui à la prison de Walam, 99 km de Niamey, et Ali Idrissa est toujours à la prison civile de Niamey. Il attend d'être transféré à Filingué, à 187 km de Niamey. Depuis hier, maître Lirwana Abdourahmane est au camp pénal de Deikaina, 100 km de Niamey, et Nouhouarzika à la prison de Tilaberi, 113 km de Niamey. Tous sont inculpés de participation à un mouvement non autorisé et complicité de saccage de biens. Le caractère illégal prononcé contre les dirigeants du cadre de concertation pour l'action citoyenne à travers la manifestation du 25 mars dernier interdite par la municipalité de la ville de Niamey nous a conduit à interroger le constitutionnaliste Dr Boubacar Adamou Hassan. Il explique ce que dit la loi Agungu Mamadantani.
L'illégalité, c'est le fait que la manifestation ne s'inscrit pas dans le cadre défini par la loi. Parce qu'il y a une différence entre participation à une manifestation interdite et une manifestation illégale. C'est-à-dire que la manifestation a été carrément interdite par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey. Eux, ils n'ont pas obtempéré à cette mesure administrative d'interdiction. Ils ont bravé pour faire la manifestation. Et donc, ils ont participé à une manifestation interdite. Maintenant, le caractère légal, c'est le caractère légal de l'arrêté du président de la délégation qu'il fallait attaquer devant le juge pour que le juge apprécie si cette interdiction-là elle est légale, elle est conforme au droit et dans le contexte actuel de les raisons que le président de la délégation a invoquées, notamment les raisons de sécurité pour interdire cette manifestation. Est-ce que c'est fondé et que ça ne remet pas en cause les dispositions constitutionnelles de l'article 32 de la loi fondamentale?
Vous venez d'entendre le constitutionnaliste Dr Boubacar Amadou Hassan. Je l'annonçais tout à l'heure, une vague de refoulés d'Algérie est arrivée dimanche dernier à Agadez à bord de 26 camions, 664 personnes au total, dont 572 Nigériens et 92 étrangers. Parmi eux, de nombreux malades, déclare Issoufou Boubacar Abdourahmane, assistant du secrétaire permanent du dispositif national de prévention et gestion des catastrophes et crises alimentaires de la région d'Agadez.
À cause de l'état de la route, on a eu des cas de plusieurs malades, dont certains étaient même critiques. Ils étaient récupérés par le district qui a été appuyé par notre partenaire Médecins du Monde, qui prend en charge ces cas de personnes qui sont très malades, des maux de tête, maux de ventre. Les urgences, on a eu trois, et c'était deux femmes et un homme qui sont pris en charge par la MDM. Donc, et à travers MDM, nous avons des districts qui les a pris dans leur ambulance pour les amener au niveau du centre de référence. La particularité de cette vague, en fait, nous avons un bébé de moins d'un mois qui a perdu sa maman en fait à partir de l'Algérie, mais qui était accompagné par la grande sœur à sa maman.
Au pour recueilli par Moussa Momane, le gouvernement capverdien vient de refuser la construction dans son pays d'une école de lutte contre le terrorisme. Sous le couvert de l'anonymat, un membre du gouvernement a déclaré à l'APF que son pays ne veut pas être la cible des attaques terroristes. Alassane Kouzi Mahamadou.
Le gouvernement du Cap-Vert a mis son veto à la création de l'archipel d'un centre africain de formation dédié aux forces de sécurité qui, selon ses promoteurs privés, devrait ouvrir en 2020. Le projet Orbit Training Center, dévoilé en février, ne va pas avancer, a indiqué cette semaine à l'agence France Presse un membre du gouvernement s'exprimant sous le couvert de l'anonymat. Selon un communiqué officiel, le gouvernement a décidé de ne pas autoriser la création de ce centre qui, selon ses promoteurs, aurait eu une superficie de 2,5 km² et dont le coût de construction aurait avoisiné les 125 millions de dollars. Mais l'annonce du projet dans la presse a émis l'opinion capverdienne. Certains craignent que l'archipel situé au large du Sénégal ne devienne une cible d'attentats comme d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, en particulier le Mali, le Niger, le Burkina Faso ou la Côte d'Ivoire. Ce dernier pays doit d'ailleurs accueillir en septembre un centre international de formation à la lutte antiterroriste voulu par les présidents français Emmanuel Macron et ivoirien Alassane Ouattara.
Dans le département de Dogondouti, depuis près de deux ans, l'on constate la mort de plusieurs arbres, notamment l'acacia, albida ou gao, plus précisément dans le sud du département. Pour le moment, l'on ignore la cause de ce phénomène, mais des études sont en cours.
Le phénomène de mort des pieux de gao dans le département, c'est aussi un souci des plus hautes autorités, parce que le préfet est au courant, le ministère est au courant. Des dispositions ont été prises, des équipes de la direction nationale à effectuer des missions. L'Institut de recherche agronomique, l'INRA, vraiment des recherches sont en cours. Les premiers financements, je pense, sont même acquis. Donc, comme c'est des études scientifiques, ça prend suffisamment du temps. On a des projets d'envoyer des stagiaires au niveau local pour voir la conception même des populations par rapport à cette situation. La solution, elle n'est pas immédiate parce que c'est quelque chose qui demande nécessairement du temps et surtout des moyens financiers.
Commandant Youssouf Moussa, directeur départemental de l'environnement et du développement durable du département de Douti, au micro de Aziz Danyuma. En prélude au championnat de lutte traditionnelle 2018 prévu à Tillabéri, la population locale, tous genres confondus, s'est réunie vendredi dernier pour apporter son soutien à la manifestation et réitérer sa pleine implication.
Nous avons constaté dans les années précédentes, tout ce qui se passe à Tillabéri, la population n'est pas impliquée. Donc il y a une négligence vis-à-vis en tout cas de nos concitoyens. Donc maintenant on a pris la décision et pour la lutte en tout cas, les futures luttes, la population va prendre tout en main. C'est-à-dire la restauration, l'accueil, l'hébergement. Donc, tout ce qu'on a ici en difficulté, ce sera acheté ici à Tillabéri. Surtout comme les légumes, les commerçants vont essayer de s'essayer en tout cas pour tout ce qui est matériel, logistique concernant la lutte traditionnelle. Vraiment, dorénavant que la population est pleinement impliquée dans cette organisation. Donc c'est pour cela qu'on s'est réunis. On avait en tout cas une première prise de contact. En tout cas, personne n'a été négligé.
Ali Mamane, secrétaire général du bureau des jeunes de Tillabéri, expliquait les raisons de cette décision. Il est au micro de Haruna Soumaï. Un mot de football, fin de la 13e journée du championnat national de football de la première division. Les derniers matchs ont été joués cette semaine. L'entente de Dosso et Akokana d'Arlita se sont quittés sur un match nul, un but partout. Pas de vainqueur également entre l'Espoir de Zender et l'Olympique de Niamey. Un but partout. La S Police de Niamey a battu la Jeunesse Sportive de Tawa 1-0. Match nul entre le Sahel de Niamey et la S Nigelec 0-0. La S FAD a battu la Jeunesse Sportive de Tawa 4-0. Match en retard. Deux matchs de la 14e journée ont été joués. Il s'agit de la rencontre de la S Douane qui a battu l'Urana d'Arlit par un but à 0 et l'US Gendarmerie Nationale qui a perdu face à la Kokana d'Arlit 0-1. La partie magazine de ce journal Cap sur Tawa pour parler précisément dans la commune rurale de Tamaské pour parler des difficultés que rencontrent les producteurs d'oignons dans cette zone.
Le comptoir d'oignons a été inauguré en 2010, mais le problème qu'on a jusqu'à cette date, l'intégration n'est pas totale de la part des producteurs. Peu de producteurs viennent apporter leurs produits au niveau des oignons. D'autres viennent prendre des cartes de bons de lavement et de commercialisation, de passage. C'est-à-dire qu'ils prennent à partir de Keta ou au-delà. Normalement, ils doivent prendre les oignons à partir du comptoir. Mais au niveau même d'ici, les gens ne vont pas au niveau du comptoir. Les gens font leur chargement ailleurs et ils viennent seulement chercher des bons de lavement, de commercialisation pour continuer sur la Côte d'Ivoire ou bien le Ghana ou bien à Niamey.
Comment se fait la commercialisation?
Normalement, il doit avoir un comité de fixation des prix. Malheureusement, ça n'a jamais vu le jour. Donc ce sont les intermédiaires entre eux qui fixent le prix des oignons. La commercialisation, les gens viennent, ils ont des intermédiaires ici au niveau de la ville. Ils envoient par exemple les commerçants qui sont au niveau de Ghana ou Abidjan. Ils ont des représentants ici. Donc ils envoient leur argent ou leur sac au niveau des représentants ici qui achètent des oignons et qui chargent le camion. Ils envoient là-bas, le camion les trouve là-bas. Ils ne se déplacent même pas.
Est-ce que cette façon de faire est bénéfique au comptoir?
Ce n'est pas bénéfique au comptoir ni au producteur parce qu'il n'y a pas de concurrent. Parce que si les commerçants ivoiriens ou ghanéens, s'ils viennent ici, là il y aura concurrence. Comme ça sera bénéfique parce qu'ils vont aller s'installer là-bas, les gens vont les trouver là-bas. Mais malheureusement, les autochtones, nos intermédiaires, eux, ils achètent au niveau du site même, donc au niveau du bas-fond, au lieu de laisser les gens apporter leurs oignons ici au niveau du comptoir.
En quelle période le prix de l'oignon monte?
Le prix monte surtout à partir du mois de juin, juillet, août, jusqu'en septembre. Parce que si vous constatez, au niveau du mois de décembre, le prix du sac était à 35 000. C'est à partir du mois de février que le prix a chuté. Donc en février, mars, donc de 10 000, maintenant c'est à 7 000 francs. À partir de juin encore, le prix va monter jusqu'en décembre. Le problème que la production rencontre, c'est surtout les problèmes de maladie des oignons. C'est ça le problème. Mais sinon, au point de vue producteur, les gens produisent beaucoup. Mais c'est la surproduction là qui fait que le prix est bas.
Ibrahim Rachidou, gestionnaire du comptoir de commercialisation de Tamasque, au micro de Tarnan Foudarma, dans Mission dans cette région. C'est la fin de ce journal.